Grégoire. Vous avez parlé de Grégoire le Grand. Et en effet, au début des Moralia in Job, et puis ainsi que des dialogues, ces dialogues, il manifeste en effet son regret d'avoir quitté la vie monastique et puis le calme un petit peu de la vie en communauté. Et sur mon anneau d'évêque, j'ai Grégoire, dont le mot signifie en grec le veilleur, Grégoire. Ceci parce que le jour où j'ai eu le premier téléphone du nonce par rapport à ma nomination, c'était le jour de la Saint-Grégoire le Grand. On commençait la visite canonique de mon abbaye à Kergonan, tous les 4 ans. Et c'est là que j'ai reçu un téléphone le jour de la Saint-Grégoire le Grand. 1 an, jour pour jour, après une triple béatification sur la place Saint-Pierre qui m'a tellement marqué, où nous étions les abbés bénédictins réunis dans notre congresso, comme tous les 4 ans, mais qu'on avait un petit peu anticipé avant la mi-septembre, donc c'était le 3 septembre, parmi les 5 béatifiés, il y avait 3 papes. Et celui qui présidait ces béatifications, c'était le pape Jean-Paul II. Il faut en dire la chair de poule en y pensant. Et il en a béatifié 2 qui étaient Pie IX et Jean XXIII. Et celui qui faisait qu'on était là, les abbés bénédictins, c'était Don Marmion, abbé de Maritsu. Et donc c'est un grand souvenir. Et 1 an, jour pour jour après, j'ai été appelé pour ce service épiscopal, donc Grégorius, Grégoire, le veilleur. Les mots ont une importance, me semble-t-il. Les mots, les lettres, et tout ceci nous parle et nous permet de parler véritablement. J'étais très touché par le témoignage de Loris tout à l'heure, puisque vous avez évoqué la charité dans des termes qui ont senti qu'ils n'étaient pas intellectuels. Et récemment, lors de l'inauguration d'églises refaites dans mon diocèse, et j'ai pu avoir la présence, qui n'était pas le cas depuis plus d'un an, parce que ça avait changé, du président du conseil départemental, ancien conseil général. Et le président, qui est un franc-maçon notoire, et l'usage, c'est que c'est le maire qui parle d'abord, ensuite vous avez le conseiller général, le président du conseil départemental quand il est là, et l'archevêque parle en dernier lieu. Et dans son discours, qu'il a fait 2 fois, on était ensemble, il a eu des paroles étonnantes, disant que seul l'amour pouvait unir les êtres humains. On a bien besoin de le savoir et de le vivre aujourd'hui. Et il s'est lancé dans une explication d'une distinction entre l'éros, la philia et l'agapé. À croire qu'il ait lu avec attention l'encyclique « Dieu est amour » de notre pape Benoît XVI, avec cette finesse qui est la sienne par rapport à tout cela. Donc la philia. Alors, philanthropos, ça a quelque chose à voir avec aussi ce mot. Et quand le seul fait de parler de philanthropos, je ne connais pas les origines du choix de ce nom pour votre institut, mais c'est certainement en lien avec une des paroles de saint Paul, je pense, qui parle de la philanthropie de Dieu. Donc c'est Dieu qui aime l'homme et qu'il crée. Et nous lirons encore, nous entendrons lire à la vigile pascale le récit de la création, où Dieu créa à son image l'homme et la femme. Et donc, dans des liens que représente aussi cette danse trinitaire qu'évoque l'icône de Roublev que j'ai eu la joie de voir au musée Tretiakov de Moscou. Et oui, impressionné, Loris, par votre témoignage et par ce fruit de votre année ici. C'est le premier fruit de l'Esprit-Saint, encore que les Galates, dans la nouvelle traduction, on dit de manière exacte qu'on parle, c'est pas les fruits de l'Esprit-Saint au chapitre 5e des Galates, mais c'est le fruit de l'Esprit-Saint. Et quand il parle le fruit de l'Esprit-Saint, il énumère les 9 qui suivent. Donc le premier, C'est l'amour, la joie, la paix, dans l'ordre, je pourrais vous les dire par cœur, parce que c'est, à mon avis, un des baromètres de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, que de voir comment tout ce fruit de l'Esprit Saint ne fasse et ne nous dit où on en est de notre proximité d'avec Dieu. Mais je ne suis pas en train de faire une homélie, ce n'est pas le moment. Quelques mots seulement pour introduire notre dialogue, Fabrice. Donc, il est vrai que j'ai été engagé dans le domaine de la liturgie à plusieurs titres, comme président de la commission de liturgie pendant 8 ans, alors que dans les ans, on en a fait 6, mais on avait remodelé un petit peu notre organisation dans la conférence épiscopale. J'ai été très vite après mon nomination président, et très vite après aussi, c'était la première fois aussi président de la commission internationale, la commission épiscopale francophone de tradition liturgique, et dont un de mes prédécesseurs, le monseigneur Boudon, évêque de Mende, était aussi président. Alors, il faut croire que le siège de Mende est un siège liturgique, parfois éjectable, mais un siège liturgique en tout cas, et avec ce président qu'il a été, et puis durant de Mende, un dominicain, que quand je vais à Rome, c'était le cas il n'y a pas longtemps non plus, je vais toujours à la Minerve, donc faire mes dévotions à Durand de Mende, dominicain à droite de la Minerve, à M. Sainte Catherine de Sienne qui est au centre, et Frangelico, dont je présidais l'autre jour la fête à la Minerve. Donc c'est des grands moments par rapport à cela. Donc président de la commission épiscopale, et puis aussi pendant 11 ans, j'étais membre de la congrégation du culte divin à Rome auprès du pape, et j'ai connu le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore pape, c'était 2 ans, deux mois avant la mort de Jean-Paul II, qui m'avait nommé à cette congrégation. Et on avait l'occasion de parler dans les pauses de 4 jours de la plénaria, avec Mgr Bergoglio était là présent aussi, était un cardinal présent de cette congrégation. Et l'avantage des pauses, c'est qu'on se retrouve, et je me rappelle d'une longue conversation, il y avait une certaine file, avec le cardinal Ratzinger en attendant notre tour aux toilettes. Vous voyez, il n'y a pas de détails dans la vie ecclésiale. Nous sommes vraiment, c'est des rencontres vraiment importantes. Quelles qu'en soient les circonstances. Alors, les enjeux, je veux dire un petit mot des enjeux de la traduction, des traductions liturgiques. Vous savez, le proverbe italien, traduttore, traditore. Le traducteur, c'est un traître. Parce qu'on ne peut jamais rendre parfaitement dans une autre langue ce qui est spécifique à l'une d'entre elles. Et donc, c'est une tâche impossible. La traduction est une tâche impossible, et aussi peut-être autre chose, une autre œuvre d'art que faire une traduction qui soit fidèle à ce qu'on nous demande. Et il a fallu faire des statuts de cette commission mixte, comme on l'appelle la CEFTEL, et donc qui englobe tous les pays francophones. Donc on était 6 ou 7 évêques proprement dit membres, mais avec des membres d'autres évêques affiliés ou qui nous avaient rejoints, et de préparer les traductions liturgiques à approuver par les conférences épiscopales et qui reconnues par Rome. L'approbation vient des évêques, mais reconnue, la reconitio, comme on l'appelle. Et le pape François vient de demander un certain assouplissement dans l'application des normes de liturgiam authenticam, qui n'était pas toujours simple. Et notons, c'est important de noter les principes de cette 5e instruction romaine qu'on appelle liturgiam authenticam, un travail organisé par des évêques appartenant à des commissions nationales et constitué en commission mixte. Il s'agit de traduire pour le rite latin et romain les textes liturgiques à partir du latin. Ce n'est pas l'hébreu ni le grec, c'est traduire à partir du latin de la Nouvelle Vulgate, qui a été travaillée pendant des années et dont les bénédictins, d'ailleurs, étaient des chevilles ouvrières dans le monastère de Rome, où étaient plusieurs moines de la congrégation de Solem, entre autres. L'abbaye Saint-Jérôme qui n'existe plus comme telle à Rome maintenant. Et les traductions ainsi préparées sont soumises aux conférences épiscopales des principales langues, parce qu'il n'est pas question d'avoir des traductions liturgiques qui soient reconnues par Rome pour un dialecte local. C'est des grandes langues, simplement. Et donc, il faut deux votes avec amendement. Il y en a eu plus de 4000 amendements pour la France, pour le premier vote, avec une réponse adressée à chaque évêque pour chaque question posée. Une réponse écrite. Et le troisième vote sans amendement possible avant l'approbation de la congrégation, de la réconitio de la congrégation du culte divin. Il y eut ensuite des commissions pour traiter des diverses réponses, et la commission d'interprétation des réponses épiscopales, le CIRÉ, et une autre dont on avait beaucoup hésité à retenir le sigle, ce qu'on n'a pas fait, c'est de l'intégration des réponses de la congrégation, le CIRC. CIRÉ, vous voyez que où nous en étions. Et au terme, pour régler les différentes questions définitives, nous étions sur 6 personnes qui demeurions pour les dernières décisions avec la congrégation, nous étions 3 bénédictins, l'abbé d'Ancalca, l'actuel, mon voisin donc de diocèse du Tarn dans ma province, dont David d'Amonville, qui avait travaillé à des équipes des livres bibliques auparavant, qui a publié des livres sur la Septante, certains livres de la Septante, et qui a assez tard de trouver des formules quand on ne trouve pas des choses, il trouve, c'est un poète aussi, dont Henri Delougne, chef de chantier de nos traductions, moine de Clairvaux au Luxembourg. Et les moines de Clairvaux au Luxembourg sont connus pour les missels qu'ils avaient autrefois rédigés aux Hautes-Combes et Luxembourg de Clairvaux. Donc, et moi-même. Donc voilà comment nous avions travaillé ensemble. Un chantier demandé par les évêques de France, indépendamment de ces commissions, avait été demandé il y a une quinzaine d'années par les évêques de France, a abouti en 2013 à la Bible traduction officielle liturgique. Et notez que l'on a voulu non seulement un lectionnaire liturgique, celui qui est maintenant en usage, maintenant avec les 3 tomes qui sont parus, et maintenant pour la semaine, pour le dimanche et pour les diverses occasions sacramentelles ou autres. Et on a voulu pas seulement un lectionnaire liturgique, comme il y avait autrefois une Bible de la liturgie qui ne prenait que des textes lus dans la liturgie, on a voulu une Bible tout entière, donc selon ad mentem liturgiae, selon l'esprit de la liturgie. C'est les évêques, je n'étais pas encore dans l'épiscopat à ce moment-là, et donc une Bible entière écrite dans l'esprit de la liturgie avec une traduction intelligible à l'audition. Et nous souhaitions ainsi, ce que nous souhaitons toujours, que cette traduction puisse être peu à peu mémorisée, ce qui est important. Traduction qui soit audible à écouter, même si elle n'est jamais lue comme telle dans la liturgie, et donc à ce titre-là, capable d'être mémorisée, d'habiter nos mémoires, ce qui est très important. Alors voilà les enjeux un petit peu du travail de ces commissions, qui est un gros travail. Et je dirais personnellement que ça m'a demandé beaucoup de travail, la commission liturgique en France, mais un autre travail est plus au niveau international, et là c'est vraiment un travail d'église en profondeur au niveau international. Et c'est la joie qu'on peut avoir dans des milieux internationaux, et je suis heureux de venir à l'occasion de votre invitation ici même, ce qui m'honore, de venir rejoindre le père Jean Harfeux qui est ici étudiant à Fribourg pour un doctorat. Je rappelle que j'étais moi-même étudiant pendant 2 années ici à l'Alma Mater, et avec le père Jean-Hervé Nicolas et toute une série, il avait Hutz, Geiger, Vicker, Schönborn, Bedwell, etc., tous des gens que j'ai beaucoup appréciés et aimés véritablement. Et donc j'ai passé 2 ans. Quand j'étais père abbé, j'ai envoyé d'autres étudiants ici, dont j'avais un petit mot de lui tout à l'heure parce que je n'ai pas eu au téléphone, le nouveau père abbé de Quo Abbé in the Isle of Wight, qui était mon sous-prieur à Kerguelen, qui est maintenant père abbé de face à Portsmouth, Southampton, là-bas. Et mon successeur, comme père abbé à Kergonan, envoyait d'autres moines ici, comme vous le savez, père. Donc il y a une continuité entre Kergonan et Fribourg. Et dans ce milieu international, car tout à l'heure ça a été évoqué par Loris, à Fribourg, nous ne sommes pas en France. Et on s'en aperçoit d'ailleurs quand on arrive ici, c'est la différence, la complémentarité, et ce jeu international est toujours à des moments très, très importants. Donc je suis également ancien étudiant d'ici, et ce milieu international que j'évoquais tout à l'heure et dont profite actuellement le père Jean Harfeux. Une traduction de qualité. Dans l'ensemble, j'estime que la traduction officielle liturgie de la Bible, en attente du missel qui se fait un petit peu attendre, je reconnais, mais je ne suis plus maintenant responsable de cela, est une réussite dans l'ensemble, je dis, qui renouvelle et précise notre approche de la parole de Dieu proclamée dans la liturgie. Je donnerai seulement quelques exemples rapides, mais chacun peut noter et apprécier dans l'écoute qu'il a de cette parole de Dieu, ou dans la pré-lecture qu'il peut en avoir, ou dans la post-lecture qu'il en fait, des textes liturgiques nouveaux. Le Magnificat, dans Saint-Luc, au chapitre 1er, avec le retour de la miséricorde, recordatus misericordiae, en latin, qui est le texte qu'il faut traduire, et il y a deux fois miséricorde, mais dans la nouvelle traduction, a été retenu une fois, de ce texte-là. Et la race est remplacée dans le Magnificat par la descendance. Je rappelle qu'il y avait trois règles que le Togiam Authentica nous donnait pour les traductions. Trois règles. Un, la fidélité à l'original, latin, la Nouvelle Vulgate. Deux, le respect de la langue dans laquelle on traduit, le génie de la langue dans laquelle on traduit. Et trois, l'usage. Très souvent, on insistait sur les deux premiers plans, mais dans le résultat final, à plusieurs reprises, la congrégation et le travail qu'on a pu faire dans les commissions ont gardé l'usage qu'on avait, la traduction qui était déjà utilisée. Donc on a vraiment joué, mais ce qui n'est pas simple, de jouer de ces trois paramètres ensemble. Mais vraiment, ça fonctionne. Notre Père, ça a fait l'objet de quelques échanges en hémicycle pour nos conférences épiscopales, et Monsieur Barbarin en particulier était tenant de ce changement, grâce à Dieu, mais nous a été interpellé en plein hémicycle par un archevêque qui n'est plus en fonction actuellement, qui était mérite, mais qui me dit qu'il ne fallait pas changer ça, mais nous changeons. Avec le remplacement du regrettable ou insuffisant, tout au moins ne nous soumet pas à la tentation, par le ne nous laisse pas entrer en tentation, proche de la parole de Jésus aux disciples au moment de l'agonie, priez pour ne pas entrer en tentation, c'est une parole de Jésus lui-même. Le passage à cette traduction est prévu pour le moment où la traduction française du missel romain sera publiée, mais ce qui ne vaudra pas, semble-t-il, pour les dettes qui apparaissent dans la nouvelle traduction de notre Père en saint Matthieu. Alors, c'est difficile de tenir ses chevaux, parce qu'il y a des prêtres de mon diocèse, des curés qui sont impatients d'avoir cette nouvelle traduction d'une pater, et qui l'ont déjà mis en usage dans leur paroisse. Mais ce n'est pas ce que l'Église nous demande. Donc, les pouvoirs d'un évêque sont quelquefois relatifs, vous voyez. Ce n'est pas une surprise. Quel malheur pour vous, pharisiens, en Saint-Luc, voilà la traduction, à la place des malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. On n'appelle pas un malheur, malheureux êtes-vous, c'est peut-être une constatation, mais c'est quel malheur pour vous, c'est de la compassion. Et voilà un genre de traduction fine par rapport à un texte. Et les Éphésiens, je suis sur quelques petits exemples, chacun pourra développer un petit peu cela, vous pouvez poser des questions à cet égard. Et dans l'hymne aux Éphésiens de Saint Paul, que nous avons le lundi à Vêpres et les jours de solennité, ce ne sera pas le cas aujourd'hui parce que les premières Vêpres, les secondes Vêpres, je crains que la solennité de l'Annonciation passe, je n'ai pas regardé mon ordo, mais Donc c'est des difficiles. Les dimanches de carême sont des parmi les dimanches c'est très important, que soit pour lesquels d'autres solennités n'interviennent pas. Au lieu de « en lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard », de « devient », et « il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour ». La charité. Saint, immaculé. Moi, j'étais ravi de voir ça, spécialement pour l'archevêque de la province de Toulouse dans laquelle il y a Lourdes. Évidemment, je pars à Lourdes lundi soir pour l'Assemblée des évêques. L'Immaculée, Notre-Dame s'est dit Immaculée le 25 mars, la fête de l'Annonciation. La première apparition était le 11 février. Et Bernadette demandait qui es-tu ? Et elle a finalement dit le 25 mars, je suis l'Immaculée Conception, ce qu'elle n'a pas compris du tout Bernadette, c'est ce qui a converti le curé. Elle n'a pas pu inventer ça toute seule. Ça avait été défini 4 ans auparavant par le pape Pie IX. C'est incroyable. Et alors, je suis l'Immaculée Conception. Elle pourrait être saint et immaculée dans l'amour. Je me souviens d'un moine de mon abbaye qui était scandalisé pour ce privilège de l'Immaculée Conception. Pourquoi c'est pas moi l'Immaculée Conception ? Pourquoi est-ce qu'elle a été privilégiée, elle ? C'était vraiment un scandale pour ce moine qui n'a jamais résolu ce problème, sauf dans la foi et l'espérance. Or, si Marie est immaculée, c'est pour qu'elle soit la mère de Jésus, la Théotokos, et que nous devenions, nous aussi, immaculés. Donc ce texte est génial. Nous devenions saints, immaculés, dans l'amour. Voilà. Quelques traductions, je termine cette petite phase-là, en ajoutant quelques traductions controversées ou étonnantes que nous avons. L'annonciation. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? Je me rappelle encore, j'étais étudiant à Solem, avec le père Dupont, avec qui quelquefois nous faisions des camineries. Étudiantesque, c'est bien légitime à un certain moment, n'est-ce pas ? Et donc, la première fois, on a pris les lectures en français, qui est à Solème quand même un moment important et délicat, sinon difficile. Et on a entendu ça dit par le père de Broc, qui était prieur longtemps en Lituanie de monastère de Fondation. C'était ma première visite canonique juste avant ma nomination à Mende. Et tout le monde était raidi à ce moment-là dans la communauté Solème, car je suis vierge. Ça ne passait pas. Et au dernier vote en assemblée pour la conférence épiscopale de France par rapport au lectionnaire, au dernier vote, je présente l'affaire, je dis que pour ce qui concerne un certain nombre de cas difficiles, d'après le statut de la CEFTEL, c'était les évêques de la commission qui votaient et qui dirimaient la question. Alors, je me souviens, une des réunions que nous avons eues à Rome pour cela avec le cardinal Vanois, qui est un bibliste, comme vous savez, spécialiste de l'Épître aux Hébreux, jésuite, et il nous disait que la traduction qu'il proposait, lui, car... Ce qui avait été voté, ce n'était pas mon vote à moi, mais j'étais président, mais c'était le vote des six évêques que nous étions à cette commission mixte. Et lui proposait, car je ne connais pas d'homme, c'est une traduction qui est littérale, mais car je suis vierge, c'était peut-être plus clair, mais ça ne se passait pas bien. Et alors, je ne connais pas d'homme. Et lui proposait, cardinal Vanois, ce qui avait été voté, donc, car je ne vis pas avec un homme. Comment cela pourra-t-il se faire, car je ne vis pas avec un homme ? Alors, j'ai, par honnêteté, avant le vote final, devant les évêques de la conférence épiscopale, j'ai dit que pour cette traduction-là qui faisait un petit peu difficulté, voilà ce que nous avions voté. Il y a eu une espèce de houle dans l'hémicycle, et... Je regarde, à côté de moi, je regarde le cardinal 23, qui était à ce moment-là notre président, et on s'en va avec un petit clin d'œil, qu'est-ce qu'on va faire, comment va-t-on, parce que c'était le vote final. Et d'autres, un reflux de houle est revenu un petit peu dans l'Assemblée et qui nous a fait dire, bon, c'est un candidat, on vote. Et ça a été voté largement aux trois quarts, pour l'ensemble, mais il y avait même reste à faire. Et en fait, dans la dernière décision prise en lien avec pour la réconditio avec la congrégation, on a adopté ce qu'il y aura ce soir à la messe, je pense. J'espère que ce sera le nouveau lectionnaire ce soir, n'est-ce pas? Et de ce serait, car je connais pas d'homme. C'était la leçon reçue, c'est l'usage qui a prévalu sur la plus exactitude contemporaine du sens, mais c'est l'usage qui a prévalu. Et c'est plus délicat, me semble-t-il. Moi, c'est ce que je souhaitais, donc j'en suis ravi. Voilà un cas difficile. Un autre cas difficile, c'est le jugement dernier. Le jugement dernier, en saint Matthieu, au chapitre 25e, la question des boucs, des chèvres et des brebis. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon Dieu. Les brebis, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui suit. Est-ce que c'est des boucs? Est-ce que c'est des chèvres? Est-ce que c'est autre chose? Alors, j'ai vu bondir, c'est qu'à dire, bondir le cardinal Bannoy. Peut-être qu'il est pourtant bien âgé, mais le cardinal Bannoy, des boucs, c'est pas possible, c'est pas des boucs, c'est pas des boucs. C'est dans la traduction ancienne, c'est des chèvres. Mais il lui dit, c'est des chevreaux. Elle dit, on voit que vous n'avez pas été berger. Je ne sais pas s'il a été lui-même, après dire. Les chevreaux sont intenables. Intenables. Les boucs, ça fonce quand il faut, éventuellement. Mais les chevreaux sont intenables. C'était des chèvres, c'était plus exact, mais ce n'est pas des chèvres, c'est des chevreaux. Comme les enfants, vous savez, les parents, ils sont ici, savent que les enfants, il y a des moments où c'est pas simple à tenir comme il faut. Et donc là, l'idée, c'était des brebis qui sont dociles, qui sont souples, qui se laissent faire, tandis que les chevreaux, on ne sait jamais ce qu'ils pourront faire. Malheureusement, la décision finale a gardé un peu ce qui était dans l'oreille de beaucoup, elle a gardé les boucs. Mais je regrette, j'aurais préféré les chevreaux. Un autre exemple aussi, les arbres pourris. Ça, j'étais étonné. Je n'ai pas regardé le détail des traductions. Il y avait des équipes, mais on visait quand même à l'approbation générale ensuite. Et on pouvait donner. Mais je n'avais pas vu passer ça particulièrement. Dans saint Matthieu, au chapitre 12e, prenez un bel arbre, son fruit sera beau. C'est une belle traduction. Un bel arbre, son fruit sera beau. Prenez un arbre qui pourrit, son fruit sera pourri, car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. J'avoue que. Ça heurte un petit peu, pourri. Mais ça renouvelle un petit peu, peut-être dans l'intelligence. Mais j'étais un peu étonné de cette traduction-là. Alors, une des questions délicates qui n'est pas résolue et qui explique un petit peu le retard actuel de l'approbation de la réconditio du missel romain, en français, c'est l'orate fratres. Vous savez, en français, c'est prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ce qui n'est pas vraiment attaquable d'aucune manière. Et avec la réponse, qui ne l'est pas non plus, qui est théologiquement et merveilleuse, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, au lieu de Orate fratres, uneum vestrum sacrificium, acceptabile fiat, apud eum patrem omnipotentem, en latin, et que vous avez en espagnol, en italien, en allemand, etc. Et elle a encore quoi en réponse? Usci piate dominus sacrificio de manibus tuis, ad laudem et gloriam dominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Dans le missel latin, c'est ce qu'il y a. Alors, ce qui nous occasionne des cavalcades, tant du côté du prêtre dans sa formule que du côté des fidèles qui répondent. Mais j'ai essayé de plaider, donc à la congrégation dont j'étais membre aussi, après le cardinal, c'était Canizares à ce moment-là, l'archevêque secrétaire, qui parlait très bien français, donc qui on s'entendait très bien, sa mère était française, un espagnol, et. On a réfléchi, on dit, certes, si on autorise ad libitum cette traduction-là, tout le monde dans la francophonie gardera cette traduction-là. Or, vous serez le seul pays où il n'y a pas la traduction, la formule longue, qui certes n'est peut-être pas très, n'est pas très, très ancienne, mais il y a quand même plusieurs siècles. Elle n'est pas très ancienne, mais parce qu'une des choses importantes qui préside à la réconditio, par la congrégation, c'est que c'est l'unité du rite romain. L'unité, dans une certaine diversité légitime, bien sûr, mais l'unité. Et moi, je m'étais rendu ce témoignage-là, et je regrette que des évêques des conférences épiscopales, dont francophones, dont je nommerai pas le nom, retardent un petit peu par ce bras de fer. C'est ça donc, qui retarde les choses actuellement. C'est un bras de fer. En conclusion, je bénis le Seigneur d'avoir eu la joie d'être choisi pour ce service d'Église, tant par mes frères évêques en France que par le pape Jean-Paul II, qui m'a nommé à la congrégation du culte divin, la discipline des sacrements, pour cette expérience d'un travail d'Église au service de l'unité dans la diversité. Vous savez que la devise de l'Europe, qui est en latin, dans sa formule originelle, la devise de l'Europe, c'est in diversitate concordia. Dans la diversité, la concorde. Et personnellement, je me permets de dire que ma devise de Père Abbé comme d'évêque, c'est De unitate trinitatis. De unitate trinitatis, de l'unité, et qui n'est qu'un résumé qu'il y a dans la préface 8 en latin du missel latin d'une des prières, des préfaces des dimanches ordinaires 8, la 8e, mais la formule totale, c'est qui est dans la conclusion du frontispice ou du grand porche de tout l'enseignement de Vatican II dans Lumen Gentium, qui est la citation de Saint Cyprien, évêque de Carthage et martyr, définissant l'Église quasiment comme plebs, de unitate, non pas de la Trinité, n'est pas un mot intéressant, la Trinité c'est un mot abstrait, je m'excuse auprès des théologiens, mais nous ne sommes pas baptisés au nom de la Trinité. Donc c'est plebs, de unitate patris, et filii, et spiritus sancti, ad unata. Le peuple unifié à partir de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce travail d'unité, et après 18 ans d'abbatiat, 15 ans d'épiscopat, le plus important de ma charge, c'est un travail d'unité. Dans la diversité, c'est pas l'uniformité que nous cherchons, mais c'est une véritable unité dans la diversité, et ce qui nécessite évidemment l'œuvre de l'Esprit Saint avec son fruit aux 9 formes, et dans le premier est la charité.